Avec Simon, on a organisé le 8 avril 2017, donc à la médiathèque de Mondeville, en banlieue cannaise. Donc une journée d'études consacrée à la scène cannaise, mais aussi on l'a ouverte aussi un petit peu sur le territoire de la Manche, notamment puisqu'on a fait intervenir certains protagonistes cherbourgeois. Donc l'objectif était aussi de montrer ce qu'a pu être cette scène cannaise qui est souvent mise de côté par rapport au Havre et Rouen. Donc c'était essayer de comprendre aussi que cette scène cannaise, dès 1976, elle existe, qu'il y a des groupes, qu'il y a des médias, etc. Et donc le parti pris avec Simon était d'organiser cette journée d'études autour de trois tables rondes, mais de façon chronologique, pour mettre en avant ce qu'il disait, c'est-à-dire les continuités historiques, les ruptures, les dysfonctionnements entre cette première scène 76, on va dire 80, et puis la scène aujourd'hui plutôt do it yourself. Donc cette première table ronde, eh bien, on avait pu convoquer quand même un certain nombre de personnes clés et de cette première scène, c'est-à-dire qu'il y avait des musiciens. Il y avait un des musiciens du groupe Bye Bye Turbin, qui était l'un des premiers groupes punk cannais. On a pu aussi avoir un responsable de la radio 666 aujourd'hui, mais qui s'appelait Radio pour tous à l'époque, qui a été un vecteur du développement du punk à Caen. On a pu avoir aussi la présence d'un autre journaliste médiatique et télévisuel plutôt, qui est Jean-Loup Janner, Jean-Loup Janner en 82 créé une première émission qui s'appelait Rockin' Chair en Normandie, et qui était la première émission où on pouvait voir des groupes locaux avec des vedettes, on va dire, internationales. C'est par exemple dans cette émission-là que j'ai vu pour la première fois Noir Désir, par exemple. Donc, vous voyez, et ensuite, le quatrième, c'était, je ne sais plus, c'est Ponche, Jean-Marie, qui est le responsable d'un label qui s'appelle Mémoire Neuve, dont le rôle est d'éditer des groupes qui n'ont jamais sorti d'album ou peu. Et donc, tout son travail est de récupérer ces bandes qui sont parfois, voilà, dans les caves. Donc il y a un travail de collecte d'archives, et il édite les groupes, soit sous forme de mini 33 tours, de groupes cannais. Donc il y a Bye Bye Turbin, RAS, Laxatif 126, etc. Et donc lui, tout son travail, c'est, voilà, d'aller chercher un petit peu tout ce qui avait été oublié, de refaire un peu cette histoire et de participer à la construction d'une mémoire autour on va dire, du rock et du punk cannais. Donc toute voilà, cette première matinée, on va dire, était consacrée à vraiment cette première vague, et voilà, essayer de comprendre comment le punk aussi s'est installé, s'est développé sur le territoire normand, et plus particulièrement autour de Caen, et aussi autour on va dire, de l'axe Caen-Cherbourg. Donc voilà, sur l'après-midi, je laisse Simon.
Ouais, ensuite, on s'est intéressé à la génération suivante, celle des Primitives, notamment avec Francis, le chanteur des Primitives, avec également Pascal, qui a par ailleurs dans le groupe Exovien d'Obermann, je crois. Et puis, essayer de comprendre, donc on disait les continuités et discontinuités historiques entre les scènes, mais aussi l'hermétique et les porosités géographiques entre les différentes localités, puisque Lisieux, par exemple, a aussi été un foyer de contagion du punk, au même titre que la Manche. Et notamment donc Pascal et David de Cherbourg qui, eux, nous racontaient comment les concerts se passaient toujours dans des bleds différents dans la Manche, parce que tous les lieux qui accueillaient les concerts se retrouvaient complètement retournés à chaque fois, et que chaque fois c'était un boulot pour retrouver un nouveau lieu, pour refaire des concerts. Et à cette table, on avait aussi Jean-Luc du disquaire d'Alternative. Donc un disquaire qui était très important puisqu'il permettait d'avoir un ancrage pour les acteurs et les actrices de la scène punk à cette époque, en plein centre-ville, qui permettait aux gens de se retrouver, mais aussi effectivement Jean-Luc sortait des disques, il était aussi label, donc c'était quelqu'un d'assez important. La table suivante était sur la génération plutôt post-2000, où nous avions Maïwenn Le Sauss, Thomas David, Tonio Caratini, Raphaël Martin et Oliver. Maïwenn qui elle, a un petit label et qui organise des concerts et qui fait partie d'un espace ouvert par des autonomes et des punks qui s'appelle La Pétroleuse. Thomas, qui a joué dans différents groupes et qui surtout, en fait, a hébergé énormément de groupes dans son local de répétition chez son père. Tonio Caratini, qui jouait dans La Verrue et dans Ravi et les Repeaters. Raphaël Martin, qui anime une émission de radio depuis 8 ans maintenant, je crois, parce que j'avais commencé avec lui sur Radio 666. Et qui par ailleurs jouait dans un groupe qui s'appelait Sugarton Cabaret. Et Oliver qui a ouvert des squats sur Caen et qui a organisé quelques concerts. Donc toute cette journée-là s'est aussi articulée sur le temps du midi avant cela, où il y avait effectivement un moment avec de la musique et il y avait un repas qui était proposé par une cantine qui s'appelle Riot Food. Riot Food qui est une cantine collective qui visait justement à ramener des fonds pour l'ouverture de ce local qui est la pétroleuse. Et il y avait effectivement aussi le mur réalisé par Samuel et qui est toujours aujourd'hui dans la médiathèque, ce qui permet aussi au projet de rester implanté et ancré dans ce territoire-là, puisque ça reste un bon souvenir pour l'ensemble de l'équipe. Ça avait du sens pour nous quand on y avait pensé, on réfléchissait à où on pouvait le faire. Et en fait, c'est quand j'en ai parlé à Christophe, je lui ai dit « Mais attends, à la médiathèque de Mondeville, la moitié des salariés sont des punks ou des anciens punks. » Donc du coup, ça avait du sens de le faire à cet endroit-là. Et voilà, c'était un bon moment.
À gérer, mais c'est
à gérer.
Bon. Merci.